Oui, bonjour Fred, c'est Francis de Nancy. Merci déjà de parler de Superman, mon héros favori depuis que je suis tout enfant. Hein. Voilà, j'avais quelques questions à te poser, en particulier une question qui me tient à cœur. Et qui est le plus rapide? Est-ce que c'est Flash ou Superman? Hein, autre question, quelle est l'identité secrète de Bizarro? Moi, je pense beaucoup à François Hollande, mais tu peux peut-être me répondre. Et puis, enfin, je voulais savoir si tu avais essayé de prononcer ton nom et ton prénom à l'envers pour voir si tu disparaissais. Voilà, je t'embrasse. À bientôt, Francis. Bye.
Je vous appelle pour vous dire que je suis vraiment pas content, mais alors vraiment pas content du tout. J'ai découvert votre émission cet été. Donc, j'ai quasiment tout écouté. Ce qui fait que j'ai envie de regarder tout ce dont vous avez parlé. De relire tous les One Piece, de me taper tous les Matrix, de écouter tout Queen, de vous acheter. Et j'ai pas de ça à faire, je suis en vacances, c'est l'été, et je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Je voulais vous laisser un petit message par rapport à l'émission que vous avez consacrée au DC. Et vous avez dit qu'il fallait être accompagné pour commencer tout ce qui est Batman et compagnie. Mais moi, je vous conseille de lire Will Eisner, Le Rêveur, qui nous explique la naissance de DC Comics et donc la naissance de Batman et compagnie, puisqu'on suit une aventure autobiographique de Will Eisner, hein, c'est un célèbre bonhomme qui ressemble beaucoup à Batman, quelque part. Donc c'est une BD qui s'appelle Le Rêveur et qui retrace tous les débuts des Detective Comics, les années 30 de la BD américaine. Ça peut aider à comprendre tout ça. Merci, au revoir.
Or not to be. Not to be. J'ai lu Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux quand j'avais 15 ans. Et j'ai toujours été fasciné parce que c'était la première fois que je lisais un livre où t'avais l'impression d'arriver, mais après la guerre. Lorsque tu découvres le Seigneur des Anneaux, t'as le sentiment que tout ce qu'il y avait de plus important, ça s'est passé avant. Les Valar, les Maillards, Shelob, les Balrogs, on te les présente tous, mais en bout de course. Sauron, il a déjà été vaincu une première fois, il a même plus de corps, c'est qu'un œil de feu au sommet d'une tour, son anneau a déjà été perdu, en plus c'est censé être la source de son pouvoir, mais à part te rendre invisible de tous, sauf de ceux qu'il faudrait, on peut pas dire que ça soit des pouvoirs hyper spectaculaires. Hein, Frodon, à part avoir un statut de victime tout du long et une tête de déterré, ça lui donne que dalle comme pouvoir, il vole pas, il envoie pas de boule de feu, l'anneau c'est juste un aimant à problème. En fait, pour Tolkien, c'est pas ce qu'il y a dans l'anneau qui compte, c'est ce que ça fait ressortir chez les gens. Cet anneau, en fait, c'est un test de Rorschach. Tout le monde y trouve ce qu'il y apporte. Et c'est ça la force de Tolkien. Bien que son récit prenne racine dans une terre du milieu imaginaire, peuplée d'elfes, d'orques ou de trolls, il nous parle de nous, nous les hommes, ce après quoi on court. L'anneau, ça peut être l'argent, l'amour, le pouvoir. Et au final, Sauron n'a pas de corps parce qu'au fond, Sauron, c'est tout ce qu'on veut.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Le monde a changé.
Amathonenem.
Je le vois dans l'eau.
Amathonerai.
Je le ressens dans la terre.
Amathonem. Willy.
Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient.
En 1938, un professeur d'université anglais nommé John Ronald Reuel Tolkien, passionné par les langues et la mythologie, publie un livre pour enfants intitulé Le Hobbit. 12 ans plus tard, il continue l'exploration de sa terre du milieu avec la publication d'un livre plus important encore, baptisé Le Seigneur des Anneaux. Des millions d'exemplaires plus tard, Le Seigneur des Anneaux est devenu la pierre fondatrice d'un genre que l'on appelle aujourd'hui l'heroic fantasy. Alors pour comprendre l'incroyable univers créé par ce professeur il y a désormais plus de 80 ans, j'ai à mes côtés Justine Breton, docteur en littérature médiévale, spécialiste de fantasy et de médiévalisme, bonjour.
Bonjour.
À mes côtés également Nils Renard, organisateur du séminaire dédié à Tolkien à l'ENS, bonjour Nils Renard.
Bonjour.
Maddy Breck, étudiant, chercheur sur le monde ancien scandinave et médiéval et membre de l'association Tolkien Deal.
Bonjour.
Bonjour. Et enfin, Hortense, youtubeuse, fan du Seigneur des Anneaux, qui a découvert le Seigneur des Anneaux par les films et qui s'est mise au livre et qui désormais connaît quasiment tout.
Presque tout.
Presque tout. Bonjour Hortense. Alors ensemble, on retracera la vie de Tolkien, hein, je vais l'appeler Tolkien, ce sera plus rapide. On voyagera dans cette fabuleuse tapisserie qu'est la Terre du Milieu et qui ne s'arrête pas au Seigneur des Anneaux. On parlera du rapport de Tolkien à la guerre, à l'écologie, même aux femmes. Et on essaiera de vous donner, s'il en était besoin, l'envie de lire ou relire ces livres grandioses que sont Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion. Allez, on monte à l'arrière d'une carriole conduite par un magicien à la longue barbe blanche qui fume la pipe et on va direction la Comté.
Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la Terre du Milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la Terre du Milieu.
Nils Renard, alors avant de parler du Seigneur des Anneaux à proprement parler, voilà, est-ce qu'on peut évoquer qui était Tolkien ?
Oui, bah alors en fait, donc d'abord il naît en Afrique du Sud, à Bloemfontein, et en 1892, et en fait cette origine a souvent marqué son enfance, dans la mesure où justement il y a eu une absence du territoire de son enfance, puisqu'ensuite il part en Angleterre une fois que son père meurt assez jeune, sa mère également, et ensuite il est élevé par un père, un religieux gallois, Francis Morgan, qui justement l'élève pendant jusqu'à sa majorité, et tout au long de cette enfance finalement il a plus ou moins lu quelques petites choses, mais finalement la grande découverte qu'il fait de la littérature essentiellement scandinave a lieu à Oxford, où il entre comme étudiant peu avant la guerre. Et c'est à Oxford, alors d'abord il commence des études finalement de lettres classiques. Ça se passe bien, mais pas forcément aussi bien qu'il le souhaiterait, et ses professeurs comprennent assez rapidement qu'il est intéressé par d'autres choses. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre finalement la littérature en vieil anglais et, via différentes circonstances, se procure des livres de littérature scandinave et découvre notamment une grammaire de finnois qui, en fait, provoque chez lui un enthousiasme assez étonnant pour un livre de grammaire. Et à partir de là, c'est une découverte linguistique, essentiellement. Et tout cela donc a lieu à Oxford, et c'est aussi à Oxford qu'il rencontre la plupart de ses amis. Alors il en avait quelques-uns qu'il avait gardés de son école à Birmingham.
Et il crée un cercle d'initiés, je crois.
Voilà, le Tea Club and Barrovian Society, qui est composé de 4 membres, dont Tolkien, Wiseman, Gilson et un troisième membre qui est Smith. Un quatrième membre, pardon, qui est Smith. Et tous les quatre, donc certains ont partagé son enfance à Birmingham, et en tout cas, tous les quatre partagent un goût essentiellement des discussions et des conversations, parce que l'université d'Oxford permet ce genre de conversation, de société. Il est aussi assez dynamique, hein, dans la vie de son collège, qui est Exeter College à Oxford, qui est l'un des plus anciens et des plus beaux collèges d'Oxford.
Et il est joueur de rugby, je crois.
Pardon ?
Il est joueur de rugby.
Oui, alors il est joueur un peu de tout. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est inscrit dans toutes les sociétés de son collège. On a conservé la liste. En fait, on voit son nom à chaque fois. Alors, mais de fait, le rugby, il a d'ailleurs composé un poème sur une bataille de rugby, une partie de rugby, mais qu'il transforme en bataille.
Une bataille des fois, hein.
Voilà, ce poème est assez intéressant parce que justement, c'est, je sais plus très bien le titre, mais c'est bataille sur une plaine de l'Est, et en fait, il décrit une partie de rugby, mais de façon héroïsée, voilà, comme une bataille médiévale. Et voilà. Et la guerre intervient à ce moment-là et en fait va jouer un rôle décisif en divisant ce groupe qui était si soudé, puisque deux d'entre eux s'engagent dans l'armée. Tolkien et Wiseman restent à Oxford pour terminer leurs examens et Tolkien parvient à décrocher le First. Bon, il n'y avait que quatre candidats, mais bon, il parvient à l'obtenir. Et juste après,
victoire.
Voilà. Et juste après, part sur le front, sur la Somme, en 1916. Et c'est sur la Somme finalement que se joue également la deuxième étape, hein, l'étape de l'écriture, qui avait déjà commencé via des poèmes, des écritures d'enfance. Mais c'est véritablement après en fait être tombé malade à la Somme de la fièvre des tranchées, il est hospitalisé. Et c'est à l'hôpital qu'il commence la rédaction de la chute de Gondolin, le premier conte, le conte en fait décisif, puisque c'est celui qu'on retrouve un petit peu, hein, si on a
et
lu.
Et qui devrait sortir cette année, si je ne m'abuse, réédité par son fils.
Alors,
par Christopher Tolkien,
voilà,
effectivement.
Oui. Oui.
Alors cette année ou l'année prochaine, enfin voilà.
Oui, c'est
on
en cours de...
C'est en août.
En août, voilà.
C'est en août.
Ah, c'est ça, mensonge.
Ah, donc j'avais raison.
Oui, oui.
C'est bientôt, alors.
C'est bientôt. Et en fait, il est revenu profondément changé, en fait, de ce qu'il a vécu là-bas. Parce qu'en fait, il a été évacué parce qu'il est tombé malade dans les tranchées. Mmh. Et il a été jugé inapte à retourner au front.
Voilà, et même après la fin de la guerre, en fait, il est resté malade jusqu'en fin 18, début 19, en fait.
On ne soulignera jamais assez l'importance de la Somme et de la Picardie dans la création littéraire internationale, je pense. Hein.
Oui. Oui, mais d'ailleurs, dès qu'on y passe, ils n'arrêtent pas de nous saouler avec ça. Ils vous rendent pas compte, c'est nous qui avons tout créé. Mais je suis complètement d'accord avec vous.
Bon, il n'en a pas gardé un souvenir merveilleux, mais bon, c'est vrai que ça a été décisif, puisque l'expérience de la guerre et de la maladie a finalement été le déclencheur, et aussi parce qu'il a perdu deux de ses plus proches amis dans la guerre. Puis le troisième s'est éloigné. Cette perte, justement, il a eu la volonté de surmonter cette perte en écrivant, qui permettrait un ouvrage, enfin une œuvre qui permettrait de réunir un petit peu toutes les conversations et les rêves qu'ils avaient pu avoir ensemble.
Donc ça a été la genèse de la création de la Terre du Milieu.
Oui, en un sens, oui. C'est vrai qu'alors, il y a des critiques disent qu'en fait, à 22 ans, il avait déjà lu tout ce dont il avait besoin pour écrire, mais de fait, c'est à partir de là, effectivement, que l'écriture s'est poursuivie, mais de façon toujours très fragmentaire, très commençant un poème, puis l'arrêtant, reprenant autre chose, et de façon un petit peu comme une ville, en quelque sorte, qui se construirait, mais par étapes, avec des retours, des annulations, voilà. Mais effectivement, le schéma est apparu assez rapidement, malgré tout.
Alors, on va faire une petite pause musicale, hein, mais on va rester sur la Terre du Milieu, parce qu'on écoute Into the West, d'Annie Lennox, le générique du troisième volet de la saga au cinéma Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi de Peter Jackson.
Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to Jenny's end. Sleep now. Dream of the ones who came before. Across a distant shore, why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away, safe in my. Ships.
to silver glass, light on the water, all souls pass, hope fades into the world of night, through shadows falling out of memory and time. Don't say we have come now to the end. White shores are calling, you and I will meet again, and you'll be here.
C'était Into the West d'Annie Lennox, la BO du Retour du Roi de Peter Jackson. Alors vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter, la programmation musicale est signée Elsa Béranger, et à la technique aujourd'hui, Antoine Théboul et Nicolas Slimani. Cette émission est réalisée par Célinia, et Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castelot.
Les Hobbits vivent de la culture de leur terre dans les quatre régions de la comté depuis plusieurs centaines d'années. Satisfait d'ignorer et d'être ignoré du monde des grandes gens. La terre du milieu étant après tout remplie d'innombrables créatures étranges, les hobbits semblaient de bien peu d'importance, car ils n'étaient jamais connus comme de valeureux guerriers et ne comptaient pas non plus parmi les plus sages.
Frodon, il y a quelqu'un à la porte.
En fait, il est de notoriété publique que la véritable passion des hobbits est la boostify. C'est une rumeur plutôt injuste, car nous avons aussi développé un intérêt certain dans le brassage de la bière et le fumage de l'herbe à pipe. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Car les hobbits partagent l'amour des choses qui poussent. Oui, sans aucun doute, notre façon de vivre est pittoresque. Mais aujourd'hui, plus que tout autre, je prends conscience que ce n'est pas une mauvaise chose de fêter une vie simple.
Oh. Frodon ! La porte !
Maddy Breck, on n'a pas encore évoqué l'amour de Tolkien pour les langues étrangères et les langues qu'il a créées également. Parce que derrière Le Seigneur des Anneaux, il y a tout un tas de langues et de vocabulaire spécifiques qu'il a créées lui-même.
En effet, depuis tout jeune, je crois depuis l'âge de 5 ans, il avait commencé à créer des langues avec ses cousines pour se distraire.
Depuis l'âge de 5 ans ?
Depuis l'âge de 5 ans. Il connaissait également, par l'éducation qu'a pu lui transmettre sa mère, le français, le latin, l'allemand. Ce qui fait quand même pas mal pour un petit jeune à cette époque-là.
Oui, bah même pour un mec de 40 ans qui présente cette émission. Hein,
Et il a continué, pour son plaisir, à créer d'autres langues qui, au fur et à mesure qu'il grandissait, se sont étoffées. Le lexique s'est complexifié, la grammaire aussi, et les textes devenaient de plus en plus poétiques. Mais ce qu'on peut retenir de ces premières langues qu'il a pu créer jusqu'aux langues les plus abouties qu'il a pu créer jusqu'à la fin de sa vie, c'est qu'il a toujours cherché la musicalité, la phonologie. Il était linguiste de par sa formation, et il était très sensible au son. Et après avoir créé des langues avec ses cousines, il a créé notamment, en découvrant la langue gothique, qui est une des plus vieilles langues germaniques qui existent, une langue néo-gothique. Et par exemple, en déclamant quelques mots, Brunem berith berkabohum, lovan sluvan sludandi.
Arrêtez, grand fou. Hein.
Ça parle d'un boulot, mais sous une figure féminine. C'est
très
joli.
Moi, c'est pas ce que j'ai compris. Vous l'avez mal conjugué.
Ah, bah, écoutez. Et il aurait pu en rester là, se cantonner aux langues germaniques qu'il aimait tant, mais il a découvert, comme l'a dit Niels Renard, le finnois au début des années 1910. Et à partir de là, il a développé une langue qui s'appelait le quenya. Et il n'a pas cessé de travailler sur cette langue jusqu'à la fin de sa vie. Il a également développé d'autres langues, mais le quenya ainsi que le sindarin, qui étaient plutôt inspirés de langues celtiques, ont été les langues majeures.
Alors, Le Seigneur des Anneaux est une œuvre classique, lue par les jeunes et les moins jeunes. Chloé Brassière, qui rêve secrètement d'être une elfe, même si elle est souvent coiffée comme un ouroukaï, est allée demander aux gens ce qui leur plaisait tant dans Le Seigneur des Anneaux.
Non, j'adore cet univers, je connais l'histoire par cœur, même des répliques, et voilà, non, Le Seigneur des Anneaux, c'est la base.
Quand j'étais petit, c'était Harry Potter, un univers qui me fascinait beaucoup.
Personnellement, ça fait partie de mes films préférés. Enfin, il se passe tout le temps quelque chose, les personnages, je trouve qu'ils sont hyper bien faits, il y a un développement tout au long des trois films et tout ça. La meilleure scène pour moi de Seigneur des Anneaux, c'est la première scène dans le premier film, avec la musique et les plans en travelling et tout, avec la montagne et toute la première bataille. Enfin, tu me mets juste ça, moi ça me refait toute ma journée, genre, je suis trop contente quand je vois ça.
J'aime bien le style parce que c'est un peu fantastique et tout, mais après j'ai préféré plutôt les versions du Hobbit. Je trouvais ça plus simple. Et comme c'était un peu l'avant aussi, Seigneur des Anneaux, le voir après, ça m'a permis de comprendre ce qu'il y avait eu avant. Enfin bref.
Il y a de tout. C'est vraiment Tolkien qui a créé le genre du fantastique, de cet univers qui nous plonge dans des histoires mais incroyables. C'est la base, c'est la fondation de seulement tous les livres fantastiques, que ce soit Game of Thrones, que ce soit Harry Potter, que ce soit... C'est lui qui a tout commencé. Et pourquoi on aime ? Et ben, c'est... Ça nous immerge dans un univers mais complètement fou, et on s'attache aux personnages, on essaie de découvrir le moindre de leurs secrets, on crée des théories complètement folles, voilà, c'est tout un monde.
Alors je rappelle que vous pouvez toute cette semaine encore, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20, au 01 56 40 30 20, sur le sujet du jour, Le Seigneur des Anneaux. Alors Justine Breton, on a entendu dans le micro-trottoir que Le Seigneur des Anneaux est qualifié d'œuvre fantastique. Je crois que vous n'êtes pas d'accord.
Pas tout à fait, effectivement. C'est là une différence en fait qu'on établit de plus en plus entre le fantastique, qui est un genre qui se développe notamment beaucoup au XIXe siècle, et où on va avoir des textes ou après des œuvres qui donnent une impression d'étrangeté. On ne sait pas trop si c'est vrai ou c'est pas vrai. Est-ce que le personnage a rêvé? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est un fantôme? On est dans le hors-là, dans certains textes comme ça, un peu angoissant de Maupassant, par exemple. Alors que chez Tolkien, en particulier dans Le Seigneur des Anneaux, on sait pertinemment que c'est un monde à part où la magie est acceptée, où on a des elfes, des orques et d'autres créatures qui ont été créées ou qui sont apparues sur cette terre du milieu. Et donc c'est ce que voilà, on appelle la fantaisie. On est dans des différentes branches en fait, hein, des littératures de l'imaginaire. On a des textes qui sont un peu cousins à chaque fois, ou des croisements. Mais chez Tolkien, effectivement, là, on va être dans la fantaisie. On est dans un univers qui est fait pour nous émerveiller, au sens médiéval du terme. C'est-à-dire, pas seulement pour nous faire rêver, mais aussi pour nous faire peur, pour créer la surprise sous toutes ses formes. Et effectivement, Sauron, Saruman ou les Uruk-hai sont pas spéciaux. On n'a pas envie de les croiser tous les matins.
Oui, ou Shelob, l'araignée.
Oui, non, par exemple. Voilà. Sinon, je déménage tout de suite. Mais on est, que ce soit chez les Hobbits, dans les cavernes absolument merveilleuses taillées par les nains, on est dans quelque chose qui suscite l'émerveillement et l'admiration.
Et alors, on toujours dans le micro-trottoir, il était dit que le Seigneur des Anneaux était la base de la création de l'heroic fantasy. Alors qu'il y a quand même deux, trois emprunts à des mythologies qui précèdent largement le Seigneur des Anneaux, notamment la mythologie scandinave, Beowulf, je vais le dire une fois mais pas deux, l'anneau des Nibelungen. Voilà, il y a plein d'emprunts. Et vous qui êtes plus spécialisé sur le travail de Tolkien, quelles sont vraiment les références qu'on retrouve ailleurs et qui l'ont précédé?
Il y a plusieurs influences, notamment, vous l'avez dit, la littérature vieille et moyenne anglaise, avec Beowulf, qui est une élégie héroïque qui raconte l'histoire d'un héros débarrasseur de monstres et combattant de dragons. Nous avons également Sir Gawain et le Chevalier Vert, qui est un poème moyen anglais, bien sûr d'inspiration arthurienne, vous l'aurez bien.
Traduit par Tolkien, d'ailleurs, il me semble.
Il a été édité traduit également, mais publié à titre posthume,
en 75. Comme beaucoup de textes, malheureusement.
On peut avoir aussi d'autres, quelques textes comme ça encore, anglais médiéval, comme la bataille de Maldon, Ancre Nevisse, qui est un guide pour des recluses, donc un texte religieux.
Oui, mais
j'ai
pas aimé le film.
Ah oui, mais on a quelque chose de peut-être plus connu, les contes de Canterbury, de Chaucer. Du côté de la littérature islandaise, bien entendu, on a les Edda, l'une en prose, l'une en vers, qui sont les sources d'informations les plus importantes pour la mythologie scandinave. On a également les sagas légendaires qui, comme le nom l'indique, tirent plus vers la légende que vers la véracité historique. Et on retrouve là-dedans l'histoire de Sigurdur, Fafnirspanni. C'est la version...
C'est terrible, parce que j'ai l'impression que vous essayez de me vendre une bibliothèque IKEA. C'est incroyable.
Je vous incite à étudier les langues.
Non, mais c'est là que je mesure. Oh là là, c'est compliqué, les langues.
La légende veut que Tolkien commençait ses cours à Oxford, donc logiquement, a commencé ses cours en récitant les premiers vers de Beowulf,
dans
le texte original.
Il faisait
de
la manière suivante. « What we garden in yard aum thought kninga frunge frunon, who thai thiringa selen fremedon. »
Vous êtes toujours sur France Inter.
Non mais c'est bien, faut le tenter. Mais vous avez de la chance que je sois marié. Alors, il y a quelque chose qui me fascine dans le Seigneur des Anneaux, c'est que justement, cet aspect fantastique et qui est souvent magnifié dans d'autres textes d'Heroic Fantasy, où on part de personnages qui sont dans un milieu apparemment normal et tout d'un coup, ils rentrent dans un monde féerique. Là, y a une forme de quotidienneté dans le fantastique et le surnaturel qui justement me rappelle aussi un petit peu la manière dont Robert E. Howard écrivait dans Conan, où en fait le surnaturel est quotidien. C'est-à-dire que les morts puissent revenir de l'au-delà. Qui est des monstres qu'on prend même pas vraiment la peine de décrire parce que ils font partie du folklore. Et il y a cette idée de quotidienneté beaucoup chez Tolkien.
Je pense qu'il y a aussi la notion d'émerveillement quand on voit les Rohirrim qui entendent parler des hobbits. Pour eux, ça fait partie du folklore, c'est des légendes urbaines ou campagnardes. Je pense que le merveilleux ne fait que surprendre les personnages. Ils ne pensent pas connaître toute la Terre du Milieu.
Mais c'est-à-dire que dans la Terre du Milieu, souvent, les légendes sont confirmées. C'est-à-dire que les hobbits entendent parler d'une légende et
des
elfes, et ils les rencontrent au fur et à mesure, comme si c'était une vérification par l'expérience des contes de l'enfance.
Mais c'est aussi une invitation, justement, à stimuler cette imagination et à se dire que peut-être aussi, dans notre quotidien, toutes nos légendes urbaines ou tous nos mythes ont peut-être, et ont d'ailleurs un ancrage réel, même s'il est ténu, même s'il est lointain, il faut continuer à croire et à essayer de réinsuffler un petit peu de magie dans notre quotidien qui peut être sinon un peu triste.
Pour reprendre l'exemple des hobbits, ceux qui portent les légendes, ce sont surtout ceux qui quittent la comté, parce que la majorité des hobbits en entendent parler, mais restent quand même cantonnés à leur village. Et ce sont ceux qui voyagent, donc les Bilbo, les Frodon, qui rapportent le savoir aussi.
Vous écoutez France Inter, il est 11h33 et c'est l'heure des chiffres. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Si je vous donne le chiffre 6, c'est le nombre d'années qu'il a fallu à Tolkien pour finir le brouillon de l'intégrale du Seigneur des Anneaux, c'est le nombre de livres que compose l'univers de la Terre du Milieu, ou c'est le nombre d'épisodes de la série documentaire à la recherche du Hobbit qui date de 2014, produite par Yanis et Alexis Medinger.
Il n'y en avait pas 4 ? J'ai un doute du coup.
Alors, c'est 12 pour la rédaction du, du Seigneur des Anneaux.
Oui.
C'est 6 pour les volumes du Seigneur des Anneaux et 5 pour le nombre de documentaires.
Et bien voilà, alors c'est la première fois que les experts nous ont fourni le test. Les réponses. Si je vous donne le chiffre 1, c'est le nombre de fois où Legolas parle à Frodon.
C'est dans le texte ou dans le film?
Parce que c'est ça, c'est la
dans
bonne
dans le
réponse.
Film. Ah oui. Bon, alors on va passer à la question suivante. C'est évident, c'était évidemment une bonne réponse. Voilà, alors on va passer au chiffre 8. C'était donc 1. C'était donc 1 dans le film.
Une seule fois,
c'est une seule fois. C'est-à-dire qu'il faut dire que je crois qu'Orlando Bloom détestait et Elijah Wood. Ça doit être pour ça qu'ils n'ont pas voulu se parler. J'invente des histoires.
Non,
parce
pour,
que...
pour être honnête, voilà, Frodon ne parle jamais non plus. À, voilà, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Hein. C'est pas que Legolas qui refuse d'adresser la parole.
Ah, mais alors, on voit qu'on a un biais. Ah, on a un biais pour Legolas, hein. C'est clair.
Non, je ne peux pas dire ça. Je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. Si,
si je vous donne le chiffre 836, c'est le nombre de pages qu'il y a dans le tome 3 du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. C'est le nombre de morts tués à l'écran dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et c'est en centaines de milliers le nombre d'entrées en France pour le troisième volet du Seigneur des Anneaux, c'est Le Retour du Roi.
Les trois?
Non.
Le nombre d'entrées, peut-être?
Non.
Est-ce que le nombre de morts, est-ce qu'on compte les olifants?
C'est le nombre de morts tués à l'écran dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et c'est un record. Ouais. Bah voilà, je ne sais pas si c'est un record dont on peut être fier. Mais écoutez, de toute façon, vous avez été brillant. Hein, là, on va pas se le cacher. Donc, vous avez gagné une chanson.
Wow.
On va faire un petit interlude musical avec la chanteuse française Allo Maude et son titre Wherever, tiré de son tout dernier album Je suis une île.
Je trouve fêter.
C'était à l'Aumaud avec Wherever et elle sera en concert le 26 août au festival Rock en Seine à Saint-Cloud.
Nous le voulons. Nous en avons besoin. Nous devons avoir le précieux. Il nous l'a volé. Sale sournois petit hobbit. Mauvais, perfide, faux. Non, pas le maître. Ils vont te duper, te faire du mal, te mentir.
Le maître est mon ami.
Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime.
Je n'entends rien. Je n'entends rien.
Tu es un menteur et un voleur.
Non.
Meurtrier.
Va-t'en.
Que je m'en aille.
Je te déteste. Je te déteste.
Que serais-tu devenu sans moi?
Colin! Colin!
Je nous ai sauvés. C'était moi. Nous avons survécu grâce à moi.
C'était Gollum dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, interprété par le brillant Andy Serkis. Alors, Le Seigneur des Anneaux, comme Le Hobbit, ont été adaptés par le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, comme je viens de le dire. Mais vous imaginez bien que de l'heroic fantasy, que ça soit en livre ou en film, sur cette terre, il y a des gens, ils aiment pas.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
On est dans une convention du bien et du mal, et qui vous laisse relativement peu de liberté. Moi, c'est vrai que je ne bouge pas très bien dans les histoires dans lesquelles le bien et le mal sont campés. Et puis, je vais vous dire, il y a aussi autre chose qui m'agace chez Tolkien, c'est les lecteurs de Tolkien. C'est que, quand vous n'aimez pas Tolkien, la plupart du temps, vous tombez sur des gens qui adorent ça et qui vous disent « Tu as perdu ton âme d'enfant ».
Quand on lit, ou a fortiori quand on regarde le film, on a l'impression que c'est un peu pour adolescents attardés, si vous voulez.
Tout à fait.
J'ai eu l'impression d'assister à un colloque dans une langue étrangère sans la traduction simultanée. Ça manque un peu de gonzesse, à mon goût. Je trouve ça très long, très ennuyeux, très laid. Mais vraiment très très laid.
J'aime beaucoup votre petit livre, jeune homme, il me fait pas mal aux pieds quand il m'échappe des mains. Mais celui-ci, il fait très mal aux pieds parce qu'il est très lourd. Très très lourd, dans tous les sens du terme.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Alors c'est normal, hein, ça, c'est la première fois que vous entendez la séquence troll, donc ça vous fait un choc. Moi je l'entends tous les matins, donc je suis un peu plus blindé.
C'est mais, violent, mais, c'est dur.
Qu'avez-vous à dire sur les critiques émises contre Le Seigneur des Anneaux?
Qui pense la plus commune, c'est celle de considérer que c'est pour adolescents attardés. Oui. Alors cette expression est assez intéressante parce que justement, toute l'ambition de Tolkien, c'est d'essayer de dépasser, de casser cette rupture entre littérature pour enfants et littérature pour adultes, qui est très forte en France, qui est un peu moins forte peut-être en Angleterre, du fait de traditions littéraires propres. Mais c'est vrai que cette coupure a toujours posé problème, et Tolkien était le premier à le dire. Et en fait, ce qui est assez dommage, c'est que justement, si on ne lit que Le Seigneur des Anneaux, et si on reste dans une lecture de premier degré, c'est-à-dire vraiment de voir une série d'aventures, on peut éventuellement comprendre qu'il y ait des doutes sur le caractère sérieux, même si déjà c'est assez dur de comprendre. Mais finalement, ce qui est dommage, c'est justement on manque la profondeur du monde de Tolkien. C'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux, c'est juste une porte d'entrée vers l'univers de Tolkien.
Mais justement, il y avait quelqu'un qui faisait une remarque sur la vision dichotomique. Merci. La vision dichotomique du bien et du mal, c'est vraiment s'arrêter à une lecture première du Seigneur des Anneaux et même ne pas faire attention que ce soit au Hobbit ou même voilà au Seigneur des Anneaux lui-même. Quand on regarde certains personnages comme Boromir,
ce que j'allais dire.
On peut pas rester sur cette simple vision absolument utopique. Il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre.
Non, parce que même des personnages présents dans la communauté et qui sont là en tant que gentils affichés ont des nuances. Donc Boromir, c'est le meilleur exemple.
Il y a une potentialité de mal en
chacun. Même Galadriel, est tentée de devenir, de s'imposer comme la reine de la Terre du Milieu. Il y a un miroir avec Sauron qui est assez important. Et c'est d'ailleurs ce que je disais dans l'édito, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a cette idée que les gens sont corrompus. C'est pas forcément le mal qui investit une région. Des fois, c'est les dirigeants qui eux-mêmes se laissent corrompre Saruman était un bon magicien, un gentil magicien, avant d'être corrompu par le Palantir. Et,
Le plus sage des plus sages, je crois, il est décrit comme ça, il me semble.
Et c'est pour ça aussi que, une fois Sauron, on va dire, éradiqué, une deuxième fois, c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, c'est un peu le retour de Sauron, voilà, mais une fois Sauron vaincu, ça ne garantit pas que le monde de la Terre du Milieu va rester absolument idyllique et que le mal ne réapparaîtra pas, puisque c'est aussi inhérent à,
oui, puis
à la nature de chaque être.
Il y a des textes ultérieurs, en fait, sur justement ce qui se passe après la fin du Seigneur des Anneaux, où justement il y a cette idée que perpétuellement le mal reprend forme, toujours par une sorte de réduction par degré, finalement, c'est-à-dire que ça devient dans la vie quotidienne et ce genre de... Justement dans un processus aussi où l'enchantement du monde se...
Hortense,
Même à la fin du Seigneur des Anneaux en lui-même, une fois que Sauron est détruit, on a quand même la comté qui vient être corrompue par le mal. Donc même si la plus grosse source du mal et le principal antagoniste de la saga disparaît, on a quand même...
Oui, parce que dans le livre, il libère la comté,
voilà, ce qu'on voit dans
des forces de Saruman qui ont investi...
Qu'on ne montre pas dans le film,
c'est
effectivement que Saruman survit. Et...
Petits orques, bourrin.
Il parle, Mary. L'arbre parle.
Un arbre? Je ne suis pas un arbre. Je suis un Ent.
Un arbre gardien.
Sylve Barbe, c'est ainsi qu'on me nomme.
Et vous êtes de quel côté?
Un côté? Je ne suis du côté de personne, parce que personne n'est du mien. Petit orque, personne ne se soucie des forêts à présent.
On n'est pas des orques, on est des hobbits.
Des hobbits? Je n'ai jamais entendu parler de hobbits. Cela ressemble à une fourberie d'orques. Ils viennent avec du feu. Ils viennent avec des haches. Tenaillons, mordant, cassant, se mouchant, brûlant. Destructeurs, usurpateurs, maudits soient-ils.
Vous ne comprenez rien. On est des hobbits. Des semi-hommes. De la comté.
Peut-être que oui. Peut-être que non. Le magicien blanc saura lui.
Hortense, on vient d'entendre un extrait de la rencontre entre les Ents et les Hobbits dans la forêt. Alors, il y a un aspect aussi écologique avant l'heure dans l'œuvre de Tolkien.
Tolkien s'intéressait beaucoup à la nature. On peut voir dans les descriptions de ses livres, il parle énormément de la faune et de la flore, surtout la flore. Il y a des descriptions d'arbres, enfin, il accorde une très très grande importance à ça. Et on a beaucoup qualifié que c'était une sorte de néo-écologisme dans ses livres. Je crois que Tolkien n'aimait pas trop cette appellation, qu'il s'en éloignait assez.
Mais d'ailleurs, je crois qu'il n'aimait pas beaucoup les étiquettes pour quoi que ce soit.
Voilà. Non, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une corde principale de l'écriture de Tolkien, le respect de la nature.
Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi, pour compléter.
Juste une boisson.
C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi beaucoup dans la fantaisie de cette époque, justement. Et je pense que c'est aussi en réaction contre la Seconde Guerre mondiale, où on a vu
autant de...
Voilà, l'industrialisation qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur, et la destruction massive, que ce soit des vies sous toutes leurs formes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez Tolkien, chez T.H. White. On a plein d'auteurs comme ça qui essayent de faire revivre la nature d'une certaine façon dans leur œuvre pour montrer que quand même, ça serait bien qu'on ne détruise pas toute la planète.
Et alors, parlons des personnages, parce qu'on n'en a pas encore suffisamment parlé. Parlons notamment de Sam, qui pour moi est le héros principal du Seigneur des Anneaux. Donc parlons de la figure de Sam. Parce qu'en fait, c'est un des hobbits qui résiste au pouvoir de l'anneau, qui accepte de le rendre et qui rentre chez lui.
Oui, c'est celui qui a vraiment la happy end telle qu'on pourrait la rêver, avec l'épouse, les enfants, enfin le retour à un quotidien qu'il arrive à vivre, hein, contrairement à Frodo qui ne peut pas retourner à ce quotidien à Hobbitbourg. Et c'est aussi une figure de ce Sam, c'est une figure du Tommy, enfin du soldat britannique, c'est-à-dire du mec normal, en fait, tout simplement, mais qui se retrouve confronté à des situations extraordinaires et qui va faire preuve d'une noblesse d'âme et de cette, voilà, cette grandeur d'âme du soldat britannique qu'on a eu tendance à vouloir valoriser pendant, notamment pendant la Première Guerre mondiale.
Et alors, j'ai peut-être une lecture personnelle de cette œuvre, mais vous pouvez me dire si ça vous a évoqué la même chose ou non. Sam est amoureux de Rosie à la Comté. Et il arrive à résister à la tentation de l'anneau, il rentre chez lui. Aragorn est amoureux d'Arwen d'un amour profond, il arrive à résister à la tentation, il rentre chez lui. Et justement, à l'heure où on interroge beaucoup sur la place des femmes dans Le Seigneur des Anneaux, on a l'impression que l'amour véritable a l'air de te protéger de bien des vicissitudes du pouvoir. Est-ce que en filigrane, il y a eu un peu ça ou je suis tout, c'est juste parce que je suis fleur bleue et que...
j'aimerais y croire. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Tolkien.
Peut-être lié aussi à sa propre vie. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux d'Edith, sa femme, très, très jeune. Et il s'était séparé pour des... Enfin, disons que le père qu'il élevait l'avait séparé d'Edith parce qu'il ne voulait pas cette union.
Il n'était pas de la même confession, je crois.
Oui, c'est voilà, il y avait différents problèmes. Il était aussi, évidemment, trop jeune à ce moment-là. Et lorsqu'il est revenu, après plusieurs années, il a retrouvé Edith. Et finalement, ils ont réussi à se marier. Et ancré en lui, justement, il y a cette idée qu'effectivement, l'amour lui a quand même permis de tenir toutes ces années d'adolescence. Et sa première année à Oxford était aussi un peu marquée par la tristesse de ne pas la voir et finalement réussir en pleine scolarité à Oxford de la retrouver. Donc c'est vrai que...
Et alors les femmes dans Le Seigneur des Anneaux, parlons-en, parce que on l'a entendu dans le micro-trottoir, dans la séquence troll, il y a ce reproche qui est fait à Tolkien de ne pas traiter les personnages féminins.
C'est peut-être le reproche le plus fondé de ce qu'on a pu entendre dans les trolls. Parce qu'elles sont quand même assez absentes. Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, on en dénombre quatre principales, je dirais.
Galadriel,
Arwen, Éowyn, Bédor.
Bédor.
Alice, Rosie Chaumine, ouais, une cinquième.
Et aussi la cousine qui vole les cuillères.
Mais je me souviens même pas.
La cousine de Bilbo.
La mère de Bilbo aussi, mais qu'on évoque très peu aussi. Mais elles sont quand même relativement absentes et elles sont surtout très statiques. À part Éowyn qui se déplace, les peu de personnages féminins qu'on rencontre, elles restent là où elles sont.
Et qui se déplacent en se faisant passer pour un homme.
Voilà. Et le seul moyen d'Éowyn de bouger, c'est effectivement de se travestir.
Donc il y a quand même bien une forme, pas de misogynie, mais de mise à l'écart des personnages féminins.
Oui, c'est ça, et surtout des personnages de mère, en plus.
Madirek, rapidement.
Je pense que les personnages qui viennent d'être listés, en fait, pourraient représenter toutes les caractéristiques qui constituent la femme. Un peu comme tous les peuples de la Terre du Milieu représentent les facettes de l'homme.
Oh là, quelle belle pirouette.
Des peuples pour représenter les hommes et eux, un personnage pour représenter une femme.
Allez, c'est l'heure du blind test made in Blockbuster. Un blind test extrêmement dur. Parce que je sais que vous êtes très doué sur Le Seigneur des Anneaux. Donc on a décidé de faire un blind test consacré aux films d'Heroic Fantasy qui auraient aimé être Le Seigneur des Anneaux, mais qui sont passés légèrement à côté. Extrait numéro 1. Alors comme ça, c'est compliqué, je vais vous donner des indices. C'est un fils de Dieu qui découvre son...
C'est Percy Jackson ?
Oh, très bonne réponse d'Hortense. Son suivant. C'est un film avec un appareil qui sert à retrouver son chemin. Ah, Hortense, elle a...
C'est la boussole d'or.
La boussole d'or,
la croisée des mondes, la boussole d'or. Bonne, nouvelle bonne réponse, Hortense.
On a le domaine d'expertise.
Oui, c'est ça. Son suivant. C'est aussi à l'époque où Le Seigneur des Anneaux a éclaté sur le grand écran, plein d'autres studios se sont dit « Ah, nous aussi, on pourrait peut-être relancer quelque chose avec le même succès, mais ça n'a pas été le cas. »
Clairement, la musique ne nous a pas marqué.
Non, mais le film non plus, rassurez-vous. Allez, je vous le dis, c'est Eragon.
Ceci explique cela.
Le fameux.
Dernier son. Un immense film réalisé par John Milius. Qui date un petit peu, avec une musique de Basil Poliédoris, un acteur extrêmement musclé.
John Milius, de toute façon.
Autrichien.
Conan.
J'attendais.
Conan le barbare. Eh oui, c'est une bonne réponse.
Je ne pouvais pas me permettre de réagir d'un seul coup sur l'homme musclé. Je me suis
dit, ouais, c'est bien, c'est tout à votre honneur. Eh bien, vous avez gagné une nouvelle chanson. Alors tout de suite, on écoute une prière folle, celle de PJ Harvey et John Parrish avec Sorry for Your Loss. C'est un hommage de la rockeuse britannique PJ Harvey pour Mark Linkous, le chanteur disparu de Sparkle Horse.
Vous ne passerez pas.
Conan.
I'm sorry for your loss of soul and hope. You find a better ride, American saddlebred. Motor Gucci Comet tail.
C'était Sorry for Your Loss de PJ Harvey et John Parrish dans Blockbuster sur France Inter. Alors on arrive à la fin de cette émission. Justine Breton, est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner pour appréhender l'univers de Tolkien ?
Effectivement, ce qui peut être sympa là, c'est de lire ou de relire la nouvelle traduction qui a été proposée par Daniel Lauzon, donc qui est un traducteur québécois, qui a proposé une traduction du Hobbit en 2012, puis ensuite des trois parties du Seigneur des Anneaux entre 2014 et 2016. Donc c'est paru aux éditions Bourgois. Donc une nouvelle traduction, puisque le texte a beau être atemporel et universel, la traduction, une traduction, ça vieillit. Et on a découvert énormément de choses depuis sur Tolkien et sur son œuvre, qui fait que cette nouvelle traduction, non seulement est très fluide et très agréable à lire, mais en plus montre une connaissance encore plus pointue de l'œuvre de Tolkien et de tout cet univers. Donc si vous voulez commencer Le Seigneur des Anneaux, commencez par ça. Et après, vous avez tout le chemin, le Silmarillion, les Enfants de Húrin et tous les poèmes, etc. La route est longue, en Terre du Milieu.
La route est longue. Et il y a une nouvelle série produite par Amazon qui devrait bientôt arriver sur nos écrans.
J'ai peur.
Et il y a également une exposition à la BNF en automne 2019.
Et à Oxford.
Et Oxford, Oxford actuel.
Et,
ben, voilà.
Et des tapisseries.
Merci Justine et... Breton, merci Nils Renard, merci Maddy Brack, merci Hortense.
Merci.
Merci d'avoir été avec moi pour faire cette émission sur Tolkien. Quant à nous, on se retrouve demain pour parler d'une saga de jeux vidéo avec qui j'ai passé plus de temps qu'avec mes enfants, Final Fantasy. Mais tout de suite, dans le débat de midi, bonjour Dorothée Barba.
Bonjour à tous, j'ai une pensée pour vos enfants d'abord, ils sont ravis de l'apprendre ce matin.
Mais ils passent aussi beaucoup moins de temps avec moi qu'avec Yo-Kai Watch ou Pokémon.
C'est bien. Alors devinette pour le débat de midi, Frédéric. On parle aujourd'hui de celle qui fête ses 60 ans en 2018 et qui a déjà été retouchée 25 fois. J'ai nommé la Constitution française. Bravo, bonne réponse à ma gauche.
C'est là que je me rends compte que j'ai écrit mal tourné.
Il est question de la réformer. Les débats ont été interrompus suite à l'affaire Benalla. Et l'affaire Benalla raconte aussi des choses intéressantes sur notre régime politique. On en parle avec mes invités et avec les questions des auditeurs sur franceinter.fr. Rubrique Le débat de midi.
Merci Dorothée Barba.
Nous le voulons. Nous en avons besoin. Nous devons avoir le précieux.